l'épreuve des faits. Céline Pitlet.
Et merci de nous rejoindre dans À l'épreuve des faits. On va prendre la direction d'Israël où se profile une deuxième vague de libération d'otages. Une nouvelle fois, les familles retiennent leur souffle. Thierry Arnaud, vous êtes notre envoyé spécial à Tel Aviv et vous vous trouvez d'ailleurs sur la fameuse place des otages. 14 otages retenus dans la bande de Gaza devraient être libérés aujourd'hui. A-t-on des informations sur leur identité, Thierry ?
Rien que l'on ne puisse dire publiquement à ce stade, évidemment, Céline. Alors, il y a des noms qui circulent. C'était le cas hier, ça l'est évidemment davantage aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, parce que on sait que à partir du moment où cette liste est établie, qu'elle est communiquée au gouvernement israélien, les familles sont averties, les familles des otages qui ont vocation à être libérées comme toutes les autres ailleurs. Et puis, à partir de là, on peut imaginer que les choses commencent à fuiter. Pour autant, bien sûr, ce que l'on nous demande toujours ici sur cette place des otages, bien sûr, c'est de ne transmettre aucune information, de ne livrer aucun nom pour des raisons parfaitement évidentes. Ne prendre aucun risque, ne rien faire qui puisse que de quelque manière que ce soit remettre en cause ce moment de délivrance que l'on attend ce soir, bien sûr. On attend donc, vous le disiez, la libération de 4 otages israéliens détenus par le Hamas dans les mêmes conditions qu'hier, suivi par un échange de 42 prisonniers palestiniens qui seront libérés par les autorités israéliennes. Ce seront à nouveau, en tout cas c'est ce qui est prévu depuis le début, des femmes et des enfants, et on assistera à la même série d'enchaînements, la remise aux autorités israéliennes, un premier examen médical, ensuite on sera évidemment entouré et acheminé vers des hôpitaux pour y être évalué médicalement, physiologiquement, psychologiquement, et être préparé dans les meilleures conditions à un retour à une vie que l'on appelle qualifiée de normale.
Hier, 24 otages du Hamas ont été libérés, Thierry, dont 13 Israéliens. Où sont-ils cet après-midi ? Comment sont-ils pris en charge au lendemain de leur libération ?
Alors, ils sont évidemment, Céline, comme vous l'imaginez, extrêmement protégés, on peut dire choyés naturellement. Ils sont dans des locaux qui ont été spécialement prévus pour eux à l'intérieur des hôpitaux. On a pu également accueillir leur famille, leur donner tous les soins qui étaient nécessaires. Les otages qui ont été libérés hier, les otages israéliens, sont répartis dans 2 hôpitaux. Il y a 8 ex-otages qui se trouvent dans l'hôpital Schneider, qui est particulièrement disposé à accueillir des enfants et des familles. Ce sont 4 enfants et leurs 4 mamans, je vous le disais, réunis avec leur famille. Et là, les nouvelles sont bonnes. On nous dit qu'ils sont dans un bon état de santé. Et puis, s'agissant de l'autre hôpital, Wolfson, s'y trouvent 5 femmes dont la condition est décrite comme stable. Là encore, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. D'un point de vue strictement médical, il n'y a pas eu de mauvaise surprise au moment où ces otages ont été rendus aux autorités israéliennes. On a vu depuis sur les réseaux sociaux en particulier des images particulièrement émouvantes, vous l'imaginez aisément, de retrouvailles de ces familles, de pères avec leurs enfants, de mères avec leurs enfants. Tout ça est évidemment très touchant, a beaucoup ému, comme vous l'imaginez bien sûr, sur cette place. Et on s'attend à revivre ces mêmes moments ce soir, ici sur cette place des otages, où une grande veillée est organisée et où les organisateurs espèrent accueillir environ 50 000 personnes ce soir.
Merci beaucoup Thierry Arnaud avec David Kouloum, envoyé spécial de BFM TV à Tel Aviv. Parmi les 13 otages israéliens libérés hier, il y a 4 enfants, la plus jeune à 2 ans. On va voir quelques images, je précise que ce sont des images de propagande du Hamas. Des enfants qui vont devoir réapprendre à vivre, qui vont devoir se reconstruire. Parmi ces enfants, il y a ce petit garçon de 9 ans dont vous nous retracez le parcours, Chloé Giraud.
Oui, ce jeune garçon de 9 ans, il s'appelle Oad Munder. Vous allez voir son visage apparaître juste ici. Il est donc l'un des otages les plus jeunes capturés par le Hamas. Et comme beaucoup d'autres, eh bien, il a été kidnappé dans le kibboutz de Niros. C'est là que vivent ses grands-parents à qui il était venu rendre visite pour les vacances. Avec lui, sa mère, Keren, âgée de 54 ans, a elle aussi été kidnappée, ainsi que sa grand-mère, Ruti, 78 ans, mais aussi le grand-père. Alors après 1 mois et demi de captivité, forcément, leurs proches étaient très impatients de les retrouver hier. Nos équipes les ont rencontrés près de Tel Aviv. Écoutez.
Le seul qui a pu leur parler maintenant est le père d'Oad. Il a dit qu'ils allaient bien, qu'ils étaient en bonne santé. Mais nous sommes très inquiets pour toutes les autres familles. Nous attendons qu'ils reviennent tous.
Alors, Ouad, sa maman et sa grand-mère ont donc pu être libérés hier. Ils sont d'ailleurs apparus sur des images de propagande du Hamas que vous voyez ici. Ce sont eux trois libérés hier. Donc, en revanche, le grand-père d'Ouad, lui, est toujours retenu en captivité dans la bande de Gaza.
Merci beaucoup, Chloé Giraud. Alors, les soldats israéliens et les personnels soignants ont été formés pour accueillir au mieux ces enfants, ces ex-otages, des spécialistes de l'enfance de l'Institut Harouf de Jérusalem ont notamment élaboré un manuel d'une vingtaine de pages dans lequel on trouve des consignes, notamment pour les soldats israéliens chargés d'aller récupérer ces enfants sur le terrain. Bonjour Ayelet Noam Rosenthal, merci d'être avec nous. Vous êtes co-auteur de ce manuel. Ce qu'on comprend en lisant votre manuel, c'est l'importance du premier contact et des premiers mots que doivent prononcer les soldats israéliens quand ils récupèrent ces enfants.
Oui, donc, pardon, est-ce que vous m'entendez ?
Du premier contact que doivent établir les soldats israéliens avec les enfants.
Oui, donc, vous demandez pour le travail qui doit être fait par les soldats, n'est-ce pas ?
Exactement.
Donc, je dois dire que toutes les consignes ont été pensées pour tous les professionnels qui auraient un contact avec les enfants. En effet, nous nous sommes rendus compte qu'après le traumatisme qu'ils ont subi, ces enfants sont vulnérables. Ils ont besoin d'un seul système qui tienne en compte de leur traumatisme.
Ouais, alors on voit d'ailleurs les mots que doivent prononcer les soldats. Je suis un soldat des forces israéliennes, je suis ici pour te ramener chez toi, tu es en sécurité. Merci Marilyn Baranès d'être avec nous, vous êtes docteur en psychologie clinique. Ces premiers mots-là, ils sont minutieusement choisis, ils sont cruciaux.
Oui, ils sont cruciaux parce que le principe du traumatisme, c'est que, et particulièrement du syndrome post-traumatique, c'est que les gens sont enfermés dans la sphère émotionnelle et la sphère de la peur. Et ils ne peuvent pas en sortir. Et donc, il va falloir faire réagir immédiatement la sphère de l'intelligence, qui est le cortex préfrontal. Et donc, on va leur donner des consignes extrêmement pratique, c'est-à-dire qui nous sommes, ce que nous allons faire, est-ce que tu as quelque chose dans ta poche, est-ce que c'est ta poche droite, est-ce que c'est ta poche gauche, c'est-à-dire qu'on va les ramener, on va les sortir de l'émotion. Donc on a des consignes, c'est un protocole israélien qui aujourd'hui est utilisé également en Europe, qui s'appelle le protocole des 6C, et qui est un protocole de déchoquage et qui va permettre donc dans un premier temps aux soldats et puis évidemment professionnels de la santé mentale d'utiliser une méthode avec 6 points qui va permettre immédiatement de sortir les gens, de diminuer, voire d'annuler le syndrome post-traumatique. Et pour ça, il faut sortir les gens de la sphère émotionnelle. Donc, il faut parler tactique.
On va voir un autre extrait de ce manuel. Ces enfants ont peut-être des questions sur ce qu'il est arrivé à leurs frères, à leurs sœurs, à leur entourage. Et la consigne, c'est même s'ils connaissent la vérité, les soldats israéliens ont pour consigne de ne pas répondre aux enfants sur ce qu'il est advenu à leur famille. Le message, ça doit être mon travail, c'est de te ramener chez toi et des gens que tu connais répondront à tes questions. Pourquoi cette consigne-là ?
Bien, d'une part parce que leur dire tout de suite, c'est-à-dire il faut différencier la sphère émotionnelle où on va les ramener à la maison avec leurs parents ou en tout cas des gens de la famille qu'ils connaissent, où là ils vont pouvoir revivre des émotions, et puis les ramener à la vie normale, si je puis dire, avec des consignes extrêmement techniques. Donc en fait, les soldats doivent faire comprendre à l'enfant que on a du temps, ils vont bientôt savoir ce qui se passe, mais là le but dans les premières heures, c'est de les ramener encore une fois à la sphère technique de l'intelligence. Il faut que leur que s'allume dans le cortex préfrontal se rallume cette sphère-là qui est celle du cartésien pour sortir de l'enfermement, de la glaciation psychique, de la sidération, de l'effraction psychique dans lesquelles ils ont été dus au syndrome post-traumatique, tout en sachant que c'est un syndrome là qui est particulier pour ces enfants et pour ces adultes parce qu'on a le premier impact qui est l'enlèvement et puis après on a 50 jours de captivité. Donc ouais. En fait, il faut comprendre ça. Il va y avoir aussi des notions de culpabilité qui vont être très difficiles à traiter parce que ceux qui sont sortis, la question, ça va être pourquoi moi, surtout s'ils ne retrouvent pas certains membres de leur famille.
Et ce sera effectivement un travail au long cours. Là, on a les consignes qui sont données à l'entourage pour les premières 24 heures après la sortie, mais on a des consignes aussi pour la première semaine et pour le premier semestre aussi. C'est un travail au long cours, Guillaume Ancel.
Oui, je vais reprendre les propos de Marilyn pour avoir sorti quelques otages. D'abord, vous les trouvez dans un état de sidération et dans un contexte totalement traumatisant. Donc, vous ne pouvez pas juste les propulser dans un contexte normal. Ils ne comprendraient pas et puis ils rendraient fou leur entourage et eux-mêmes le deviendraient. Donc, il faut leur permettre d'avoir une transition. Sachant qu'on est obligé d'aller lentement et rapidement, parce que par contre, ils détiennent des informations qui sont importantes, qui ne sont pas du tout des informations tactiques, mais les Israéliens ont besoin de savoir quels autres otages ils ont vus. Qui est encore en vie? Et ça, aujourd'hui, même le Hamas ne le sait pas toujours. Donc, en même temps, ils sont détenteurs d'informations qui sont importantes, y compris les enfants, mais il faut absolument leur permettre de revenir dans un contexte de vie normale après ce qu'ils ont subi. Donc, en général, ce qu'on essaie d'organiser, c'est un sas de décompression qui va leur permettre progressivement de reprendre pied sans transformer en nouveau traumatisme ce qu'ils ont subi, y compris la sortie de cet état-là, puisqu'il y a un moment quand on est passé, en général, quand on a passé plus de 15 jours en captivité, on finit par trouver presque une bulle rassurante par ses propres gardiens, ce qui inverse la situation.
Syndrome de Stockholm.
Ils ont connu des bombardements, ils ont été déménagés à toute vitesse et finissent par faire des confusions entre qui les protège et qui les sort. Et donc ça, c'est tout le travail du corps médical d'arriver à les ramener à une réalité qui leur permettra de vivre presque normalement. Ils garderont, à mon avis, des traces toute leur vie. Mais il faut faire attention de ne pas agrandir ces blessures et d'accompagner aussi leur entourage qui ne comprend pas pourquoi ils ne retrouvent pas tout de suite l'être qu'ils ont attendu pendant 8 semaines. Donc c'est une double tension qui est très difficile à gérer.
Merci beaucoup, Marilyn Baranès, d'avoir été avec nous sur cet angle de la prise en charge psychologique, notamment des enfants ex-otages.